Dieu vous bénisse. On va prier. Merci Père, ô Dieu, pour la grâce que tu nous donnes encore de pouvoir nous assembler ce soir et nous. Et place en nous, Père éternel, ta parole afin qu'elle germe et qu'elle produise des fruits dignes de repentance. Nous bénissons ton nom et nous te prions de nous conduire tout au long de cette réunion. Comme tu nous as conduit dans la partie qui vient de précéder. Sois-nous favorables au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous permettez, il me semble que ça c'est... Nous allons continuer en fait ce que nous avons commencé ces derniers temps. La fois passée, nous avons vu le schéma habituel. Je ne veux pas le mettre aujourd'hui au tableau. Nous avons dit que la marche des enfants d'Israël et leur entrée dans la terre promise ressemblait au parcours que l'enfant doit suivre dans le ventre de sa mère, de la conception à sa naissance dans ce monde. Et l'enfant est le fruit de l'alliance entre l'homme et sa femme. Et que cette alliance est le type de l'alliance entre Christ et son épouse. Nous sommes partis en fait de là. Nous avons parlé donc de la femme et de son comportement, de sa relation avec son mari. Et nous avons vu qu'elle doit avoir pour modèle l'Église, corps du Christ. C'est ce que l'apôtre dit. Aujourd'hui, nous allons voir les modèles que l'homme doit suivre dans le mariage. Et les modèles qu'il doit suivre, c'est Christ. On va lire Éphésiens 5, le même passage que nous avons lu la fois passée. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soulignez, vous soumettant les uns aux autres. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Soulignez, Marie, aimez vos femmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je reprends, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est la raison qu'il donne. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Merci Père de nous conduire. Reçois honneur, louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu la fois passée qu'il est important que l'homme et la femme soient remplis de l'Esprit de Dieu. C'est la recommandation de Paul, car si ce n'est pas le cas, vous n'irez pas jusqu'au bout de l'aventure maritale à cause des combats de toutes sortes qui vont se présenter à vous le long du chemin. À commencer par votre caractère à vaincre. Il s'agit donc de chercher la face de Dieu pour qu'il vous remplisse de son esprit en Christ. Puisque c'est son esprit qu'il met en vous. Le modèle qu'il donne, c'est Christ pour l'homme et c'est l'Église comme corps de Christ pour la femme. Bien, donc nous avons parlé de la femme. C'est ce que l'apôtre a commencé par la femme. Alors, qu'en est-il de l'homme? L'apôtre dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et si vous voulez savoir comment Christ a aimé l'Église, il suffit de remonter pour aller lire les textes qu'on a lus. Mais comment les maris appliqueront-ils un modèle qu'ils ne connaissent pas? N'est-ce pas qu'on applique que ce qu'on connaît? La réponse, on l'avait dit la fois passée, c'est en méditant la parole de Dieu, en faisant d'elle ses délices, et surtout par la conduite du Saint-Esprit, car s'ils sont enfants de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Remarquez, l'apôtre dit, Marie, aimez vos femmes. Le message est adressé aux maris. Donc les maris doivent se conformer aux Écritures.
Amen.
Et la femme n'a pas à aller répéter à son mari, tu dois m'aimer. S'il le dit, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc, l'apôtre leur parle de l'amour qu'ils doivent avoir envers leur femme. Il répète cela au moins 4 fois, alors que pour la femme, se soumettre apparaît dans les textes 2 fois. Et nous avons vu que le mari était le premier-né. Il a une double portion. Et le Seigneur répète ça au moins 4 fois. Ça montre la responsabilité du premier-né. Souvent, les parents sont intransigeants avec les premiers-nés, car ils sont leur vigueur et leurs prémices. Et la Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ça, on peut lire dans... Vous pouvez lire dans Romains 11, 16. Alors, que doit faire le mari? Il doit aimer sa femme au sens de Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est sacrifié pour elle. Il l'a nourri et il en prend soin. Ça veut dire que le mari doit combler sa femme physiquement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. C'est une lourde responsabilité pour l'homme. Pour arriver à faire tout ça, il faut que l'homme puisse mourir à lui-même et qu'il entre en Christ. Le schéma est le même. Il doit mourir aux traditions africaines ou aux traditions européennes. Du moins les mauvaises, pour qu'il cherche à découvrir le langage d'amour de sa femme. Pour cela, il doit étudier sa femme et user en tant que chef de beaucoup de sagesse. Car la femme est un être délicat. On va lire dans 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est le secret de l'exaucement des prières dans les maisons. Afin que quoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Un homme qui ne traite pas correctement sa femme est un infidèle. Et une femme qui ne traite pas correctement son mari est un infidèle, quoi qu'il dise ou quoi qu'elle dise. Je répète, la femme est un être délicat. En effet, la psychologie de la femme, sa perception, sa dynamique émotionnelle et sentimentale très vive et exacerbée sont très complexes, fluctuant souvent au gré de son cycle menstruel, au point que l'apôtre exhorte le mari à user de sagesse dans ses rapports avec sa femme. Il doit apprendre et savoir gérer ses caprices involontaires ou non, parce que parfois elle-même ne se comprend pas. Et si l'homme n'a pas de patience et de sagesse, il va très facilement s'énerver. Et cela peut être une source de frustration pour elle. Et une femme frustrée est vraiment dangereuse. Surtout qu'elle a à son avantage la parole. Et très vite, l'atmosphère peut devenir toxique. De surcroît, la femme est un être de désir. C'est ce qu'on lit dans Genèse 3, 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Il dominera sur toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un dominer par amour. Et c'est justement Christ est venu remettre les choses à la bonne place. La femme n'a pas d'autre personne vers qui porter ses désirs si ce n'est son mari. Dieu ne veut pas qu'elle retourne au serpent. Il a déjà mis l'inimitié entre le serpent et elle. Et Dieu a tout donné, en tout cas, il a donné tout ce qu'il faut à l'homme pour y répondre. Ou en tout cas, l'homme doit faire tout son possible pour y répondre. Donc, nous avons lu, si nous lisons dans, je crois que c'est l'apôtre qui le dit, je n'ai pas la référence, je n'ai pas noté la référence, mais ce n'est pas grave, je crois que c'est dans Corinthiens peut-être. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Ce qui est dit ici, l'apôtre veut qu'on puisse garder l'équilibre entre le spirituel et le naturel, si tu veux le charnel. Ne sois pas plus catholique que le pape. Il faut garder l'équilibre dans les Écritures. Dieu veut que vous soyez toujours ensemble et dans une bonne atmosphère paisible et spirituelle. En tout cas, d'un même cœur, si vous voulez qu'il ait accès à vos prières. C'est un des grands problèmes parmi les couples dits chrétiens. Il y a des hommes qui sont trop spirituels ou se considèrent comme tels qu'ils ont oublié qu'ils sont mariés. Et de l'autre côté, il y en a qui sont tellement charnels que le bien-être spirituel de leurs épouses, c'est le cadet de leurs soucis. Cela peut être dit aussi pour la femme. Il y a des femmes qui sont tellement spirituelles ou se considèrent comme telles qu'ils ont oublié qu'elles sont mariées. Ne laissez pas de brèches dans votre édifice. Colmatez-les et vous vivrez en paix. C'est pourquoi l'homme doit tout faire pour comprendre sa femme. Et il doit l'amener constamment devant Dieu dans la prière et parler à sa femme de Dieu. Il doit faire comme Salomon lorsqu'il devint roi. Je suis en train de montrer la lourde responsabilité de l'homme. Salomon a demandé de la sagesse. On peut lire ça dans 2 Chroniques 1, 9, 10. Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si grand. Ici, on peut voir que la famille, donc l'homme et la femme, peut être comparée au roi et à son peuple. Nous voyons que Dieu a exaucé sa prière et même lui a donné beaucoup de biens. Responsabilité de l'homme. L'homme est le pasteur de sa femme. On en a, je crois, déjà parlé. Sachez qu'en Dieu, il y a une hiérarchie. On va prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Remarquez, on a donc la femme, au-dessus de lui, il y a son mari, et au-dessus du mari, il y a Christ, et au-dessus de Christ, il y a Dieu. C'est dans cet ordre-là que les choses sont. Et ça, c'est l'ordre de chef. Mais dans l'autre sens, c'est l'ordre des responsabilités. Dieu, il est le chef de Christ. Il a mis son esprit en lui. Le mari a pour chef Christ et Christ a mis son esprit en lui. Christ a mis aussi son esprit en la femme. Oui, il faut voir ça bien. Et ici, pour l'homme, ça c'est spirituel et ça c'est physique. Dieu met son esprit, ou Christ met son esprit dans l'homme, Christ met son esprit dans la femme, et le mari met sa semence dans la femme. Il y a les spirituels et les physiques. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut garder l'équilibre dans les Écritures. Vous pouvez lire tous les chapitres et vous comprendrez la hiérarchie divine. L'homme est censé être la couverture de sa femme. J'avais vu une fois dans un, je crois sur Internet, où il y avait un monsieur qui avait dessiné des parapluies. En fait, en dessous de ces parapluies, il y a Christ. Et puis, il y a un autre parapluie où en dessous, c'est l'homme. Il y a un autre parapluie où en dessous, c'est la femme. En fait, la femme est l'être la plus protégée au monde. Elle est la plus protégée. Et ça peut se voir parce qu'elle est la cadette. Et la cadette est toujours choyée. C'est pourquoi la responsabilité est au niveau de l'homme, le premier-né. C'est pourquoi Dieu demandera des comptes au mari.
Amen.
Donc, je disais, l'homme est censé être la couverture de sa femme, Christ la couverture de l'homme,
amen.
Et Dieu celle de Christ.
C'est vrai. Amen, amen.
Bien regarder ce schéma. Dans ce schéma, en tout cas, pour les mariés, ce n'est ni les pasteurs, ni un quelconque serviteur de Dieu, ni un quelconque homme qui est le chef de la femme.
Non, c'est vrai.
Ce n'est pas bien si une femme écoute son pasteur ou un quelconque prédicateur ou qui que ce soit, plus que son mari, pour se rebeller contre lui. Il peut donner des conseils et sans plus. La femme doit savoir que ce n'est ni le pasteur, ni un apôtre, ni un quelconque serviteur de Dieu, ni ou un homme lambda qui l'a épousé. Le pasteur ou le serviteur de Dieu a sa femme dont il est le chef. Aucun homme n'a le droit d'aller conduire la maison d'un autre ou l'influencer. Attention, il faut beaucoup de respect aux serviteurs de Dieu. Il faut les honorer, car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, la Bible dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Ça ne s'arrête pas là. Dans 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il faut donc respecter les anciens et eux-mêmes doivent être des hommes respectables, car ils dirigent des enfants de Dieu. Dans Hébreux 13, 17, il est dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » La Bible est claire là-dessus. Pour le reste, le chef de la femme, c'est son mari. La femme n'a pas deux têtes. Oh non. L'Église n'a pas non plus deux têtes. L'homme a des comptes à rendre à Dieu pour sa femme. Et il doit réaliser cette responsabilité. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les jardins. À qui Dieu est venu d'abord demander des comptes? À Adam, à l'homme. C'est lui la tête. Et l'homme doit être digne de la femme que Dieu lui a confiée pendant son séjour terrestre. Car maltraiter sa femme de quelque manière que ce soit, c'est ruiner sa propre vie. Et une femme intelligente est un don de Dieu. Chéris-la, car en le faisant, c'est ton bonheur que tu assures et c'est Dieu que tu honores.
Amen.
Notez, la manière dont une femme se sent respectée, c'est en lui montrant de l'amour ou de l'affection. Ceci est très important. Je le répète, le langage d'amour que la femme comprend le mieux dans son univers, c'est l'amour, l'affection, l'attention et l'exclusivité.
Amen.
C'est pourquoi la Bible exhorte à plusieurs reprises à l'homme d'aimer sa femme. C'est même un besoin pour elle. J'irais même jusqu'à dire que le premier besoin de la femme n'est pas la maison ou les biens matériels. C'est l'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire que Frère Branham raconte de ce couple qui était pauvre et l'autre qui était riche. On peut ne pas avoir beaucoup de choses, mais quand l'amour y est, ça change tout. Remarquez, la Bible parle de la femme comme d'un sexe plus faible. Détrompe-toi. Il est dit « comme ». Ne va pas trop vite en besogne. Elle l'est à certains égards, c'est vrai. Mais savez-vous combien de rois, de princes, de sages, de prédicateurs, de géants sont tombés à cause des femmes? Ne prends pas cette faiblesse pour lui causer du tort ou la violenter. Tu seras surpris comment elle peut t'humilier et rendre ta vie comme un enfer. C'est pourquoi l'apôtre dit de la traiter avec égard pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est l'homme qui porte d'abord cette responsabilité. Ne confie pas la responsabilité de la prière à ta femme. C'est toi le pasteur. C'est pourquoi tu as constamment besoin d'être dans la présence de Dieu.
Amen.
Le mari est l'initiateur et la femme est son aide.
Amen.
Je crois qu'aide, il est dit Ebenezer, le secours de l'Éternel.
Amen.
Donc la femme est un secours de l'Éternel pour l'homme.
Amen.
Ne néglige pas ton aide, car sans cette aide, tu ne t'en sortiras pas, ou alors difficilement. La femme est une précieuse aide. Il est important de souvent la remercier. Et si tu veux vivre heureux, rends-la heureuse.
Amen.
Responsabilité de l'homme. L'homme est le premier pourvoyeur de sa maison.
Amen.
Nous voyons ici les besoins de sa maison. Retourne au commencement et tu verras que la mission de l'homme est clairement définie. Il doit prendre soin de sa femme, de sa maison. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. En second lieu, nous avons aussi vu que la femme est un être de désir. Le comble des désirs, c'est qu'ils sont éphémères et changeants. Ce qui est différent des besoins. La femme aime se faire et se sentir belle. Alors, le mari doit lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle prenne soin d'elle-même et que ses désirs soient comblés.
Amen.
Et l'homme doit être content de faire paraître devant lui,
oui, c'est ça.
Je réponds, devant lui, sa femme rayonnante, digne, propre et sobre, et au-dessus de tout, pieuse. Lisons ça dans 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Regardez Christ, comment il prend soin de l'Église. C'est ce qu'on a lu tout haut. C'est afin de faire paraître devant lui, donc devant Christ, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La femme doit refléter le caractère de son mari.
Amen.
Dis-moi qui est ta femme et je te dirai qui tu es. On reconnaît un homme responsable par la manière dont il prend soin de sa femme. Et en retour, qu'elle soit vraiment heureuse.
Amen.
On va bientôt finir. Cher mari, ou cher frère, pardon, ne te marie pas avec une sœur dont tu sais que tu ne pourras jamais te sacrifier pour elle. Et on ne se sacrifie que pour la personne dont on estime la vie plus importante que soi, ou tout au moins égale. Christ s'est sacrifié en abandonnant sa gloire auprès de Dieu pour venir comme un homme simple. Il a été traité comme un malfaiteur, il a été méprisé, injurié, battu et même crucifié pour son épouse. Il est mort pour son épouse afin de la ramener à la vie. Tant que tu n'es pas prêt à mourir pour elle, ne te marie pas. Oh là là, la barre est très haute, hein? Mais c'est le standard de Dieu. Il faut en être conscient. La barre est tellement haute qu'il te faut être rempli du Saint-Esprit. Sinon, c'est une affaire de vie ou de mort. Voyons un peu le cas d'Adam. Il a choisi volontairement de suivre sa femme en violant volontairement la loi divine. Car c'était la seule façon pour lui de sauver Ève. Il a donc accepté de mourir avec sa femme et pour sa femme. Malheureusement, il n'avait pas le pouvoir de la ramener à la vie. C'est la différence avec Christ. Ce n'est pas qu'il a aimé sa femme plus que Dieu. Non, mais il savait qu'en acceptant de suivre sa femme, Dieu les ramènerait tous les deux à la vie, qu'importe le châtiment qu'il devait endurer. Ça montre l'amour qu'il avait pour sa femme, pour aller jusqu'à accepter de mourir. Le secret, c'est qu'Adam était le fils créé de Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Quel grand avantage de connaître Dieu, d'être son enfant et d'être rempli de son esprit. C'est ça la voie par excellence du mariage. Je vais encore le répéter. La femme est un être délicat, car elle connaît des bouleversements hormonaux au cours de sa vie qui ont une influence sur ses émotions, sa psychologie et son tempérament. Et malgré cela, il faut l'aimer jusqu'au sacrifice suprême. Et Dieu, et la femme, est porteur de vie. Nous avons vu que dans les déserts, Dieu a donné la manne. C'est comme la femme, quand elle est enceinte, elle ne mange pas tout. Il y a un régime spécial qui est imposé par l'être à naître. Donc, l'homme a une grande responsabilité. Il est l'initiateur et la femme l'aide. La réponse naturelle de la femme à l'amour de son mari, c'est la soumission, c'est le respect. L'homme est le jardinier et la femme le jardin. C'est le jardinier qui prend soin du jardin. Et le jardin le lui rend bien en lui fournissant beaucoup plus que ce qu'il a semé. Tout ce que tu plantes dans ta femme te revient multiplié parce que c'est dans sa nature. Elle est semblable à la terre où tu plantes tes graines. Si tu mets en elle la tempête, tu vas récolter l'ouragan. Si tu mets en elle l'amour, tu vas récolter la félicité. Une autre chose, Dieu a établi des lois et des principes dans la nature. Et la nature obéit à ses principes et à ses lois. Tout celui qui les viole en subira les conséquences. C'est justement grâce à ces lois qu'on peut prédire presque à 100% ce qui va arriver. On a le cas de la météo. Et ici, j'ai noté un cas. J'ai dit, par exemple, celui qui ne respecte pas la loi de la gravité et qui se jette du haut du deuxième étage ne doit pas s'étonner que la mort l'attende au sol, qu'il acquérera violemment et avec fracas. Qu'il bénisse Dieu s'il s'en sort indemne. De même, si tu ne respectes pas les lois et les principes du mariage, il ne faut pas s'étonner que ton mariage se fracasse. L'amour que tu donnes à ta femme te revient en soumission et en respect. Car l'amour et la soumission ou le respect sont deux facettes d'une même réalité vues sous deux angles différents. Celui de l'homme et celui de la femme. Une femme aimée est soumise. Et une femme soumise est aimée. Mais je répète, l'initiateur, c'est l'homme. C'est lui qui a l'amorce. Pour clore, Dieu a permis que l'homme et sa femme deviennent un par l'alliance scellée entre les deux. Mais retenons, ce sont d'abord deux pécheurs sauvés par grâce. S'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Dieu continue à travailler en chacun d'eux pour les amener à la stature de l'homme parfait. Ô femme, sache que Dieu utilise ton mari pour te sculpter, afin de te rendre semblable à l'Église corps de Christ. Et inversement, ô homme, sache que Dieu utilise ta femme pour te sculpter afin de te rendre semblable à Christ. Tout dépendra de ton obéissance à la loi de l'amour. Voici ce que Dieu veut pour l'homme et pour la femme. On va lire ça dans Galates 5, 22-23. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je crois qu'il y en a 9. Hein. Normalement, il devait en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça? Oui. C'est un chiffre divin. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors, mon frère, ma sœur, Tu augmenteras ta souffrance si tu continues à résister au Saint-Esprit. Arrête-toi et sonde ton cœur. La question que le mari peut se poser, cher frère, fais-tu tout pour rendre ta femme heureuse? Pas la rendre heureuse selon toi, mais selon elle. Si c'est déjà le cas, que Dieu te bénisse. Si ce n'est pas le cas, que Dieu t'aide. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Chère sœur, fais-tu tout pour que ton mari soit comblé? Fais-tu tout pour que ton mari soit heureux? Pas le rendre heureux selon toi, mais selon lui. Si c'est le cas, que Dieu te bénisse. Si ce n'est pas le cas, que Dieu t'aide. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Prions. Bien-aimé Père, combien chacun de nous a besoin de ton esprit, car sans lui, tout ce que nous venons, ô Dieu, de lire dans ta parole ne sera, Père éternel, que l'être. Mais c'est l'esprit qui vivifie et nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, aide chacun, Père éternel, ô Dieu. Les maris et la femme sont appelés à manifester Christ. Et le monde regarde à ceux qui prient pour voir comment ils se comportent. Et parfois, on jette le discrédit sur le nom de Christ car on fait exactement les mêmes choses que font les mondains. Or, tu nous as appelés un peuple à part pour vivre une vie à part et pour marcher d'une manière particulière. C'est pourquoi nous prions, Père éternel, ô Dieu, que tu visites chaque couple, Père éternel. Et comme j'aime à le dire, une église forte, c'est une église où les couples sont forts, forts dans le Seigneur. Aussi, nous prions, Père, pour que tu soutiennes, que tu fortifies, Père. Bien-aimé, je recommande les jeunes gens entre tes mains pour que tu les aides à comprendre la profondeur de ces mystères, car leur bonheur en dépend s'ils veulent se marier. Aussi, soutiens-le, éclaire-le, Père éternel, ô Dieu, pour que, ô Dieu, ils puissent témoigner de toi en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Nous te bénissons, Père, pour ton amour et ta grâce envers nous. Maintenant que nous allons nous séparer, nous prions, Père, que tu nous raccompagnes et tu nous aides à méditer ces choses et à les approfondir, ô Dieu, par nous-mêmes. Car, ô Dieu de miséricorde, la révélation vient de toi et il n'y a que toi qui peux parler au cœur. Ainsi, nous bénissons ton nom, Père, pour tous tes bienfaits et pour tout ton amour envers nous. Nous confions tout entre tes mains. Bénis, ô Dieu, ceux qui n'ont pas été là, Père, et souviens-toi de tous ceux qui sont alités ou qui sont dans quelque affliction que ce soit, que tu les visites, Père, pour leur accorder guérison et délivrance, Père. Reçois honneur, louange et gloire. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.